C'est 23.
Au réseau Cogeco, Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
C'est le temps d'accueillir les gars de la Poche Bleue qui sont avec nous, Maxime Lapierre. Salut Max!
Salut Jérémy.
Guillaume Latendresse, salut Guillaume!
Salut mon Dieu!
Hey les gars, là, écoutez, hier il y a eu un match magnifique, spectaculaire pour Kaden Primo. OK, on va dire pour Kaden Primo. Hier, le Canadien l'emporte 3-0 face aux Blue Jackets de Columbus. En fait, il y a eu un gros match, 5 minutes 48 pour le Canadien, on marque 3 buts, fling, fling, fling. C'était terminé par la suite et Primo faisait le travail. Parlez-moi de la performance de Kaden Primo, je commence avec Guillaume.
Ben, c'est assez impressionnant, puis cette performance-là, puis là, c'est deux blancs de suite aussi à domicile. Ouais. Fait que ça démontre qu'il commence à prendre confiance, puis j'ai hâte de voir. Tu sais, faut pas oublier, là, depuis le début de la saison, puis depuis le début de sa carrière, là, mais depuis le début de la saison, à trois gardiens, il revenait moins souvent. J'ai hâte de le voir dans un rôle plus régulier, même s'il est le deuxième gardien, plus régulier dans le filet, comment il va prendre confiance. Puis des fois, tu sais, faut pas oublier qu'il vivait depuis le début de la saison. Ah, c'est-tu moi qui va partir? Ils vont-tu me mettre sur le balotage? C'est quoi le plan de match? Qu'est-ce qui, tu sais? Fait qu'il y a tout ça aussi. Là, je pense qu'il est libéré. Il sait qu'il y a une belle opportunité avec Samuel Montembeau, les deux ensemble, d'être les gardiens pour finir la saison, puis probablement l'année prochaine aussi. Mais exceptionnel, honnêtement, là, tu sais, ça faisait, c'était le fun, là, d'entendre des primos, puis les partisans retombaient un peu en amour avec leur gardien. C'était vraiment le fun de voir cette performance-là, puis garder le Canadien dans le match, puis on s'entend là-dessus. Là.
Puis si tu regardes les qualités de base, c'est le fun, tu sais, de voir l'évolution, sa vitesse dans ses déplacements. Il a l'air beaucoup plus gros devant le filet, semble mieux couvrir ses angles, puis tu sais, son attitude, je pense, n'a jamais été un problème. Il semble être un gars très calme. Il a pas l'air d'avoir grand-chose qui stresse, en tout cas, dans son langage. Langage corporel, ça c'est sûr et certain. Puis tu sais, on s'est tellement plaint du fait qu'il y avait trois gardiens cette année à Montréal, mais la réalité c'est que Montembeau s'est amélioré, puis Primo s'est amélioré. Puis ça, c'est pour l'instant, c'est nos gardiens d'avenir. Ils ont pris un grand pas dans la bonne direction. Donc, on n'a pas le choix de dire travail accompli pour Kent Hughes. T'sais, ça n'a pas toujours été facile cette situation-là, mais nos gardiens font le travail pour l'instant.
OK, est-ce que puis-je me permettre d'être en désaccord? Moi, j'ai juste une petite affaire là-dessus, c'est que je trouve ça, oui, vous avez raison, Montembeau a pris des bons matchs, Primo, ça s'améliore, puis Jake Allen, malheureusement, c'est pas qu'il était mauvais, c'est juste qu'il trouvait pas le moyen de gagner des matchs, mais je trouve qu'il y a eu au moins 4-5 matchs qu'on aurait pu avoir notre meilleur gardien devant le filet, puis c'était pas le cas. C'est peut-être 4-5 matchs qui t'amènent des victoires, ou t'as des matchs un peu plus significatifs présentement que le fait que tu sois rendu 26e puis t'es complètement éliminé, Guillaume. Et en quelque part, on a peut-être raté l'objectif d'avoir des matchs significatifs avec le ménage à trois des gardiens de but.
Ouais, peut-être. Je suis d'accord avec toi, Jérémy, mais on a quand même eu un choix qu'on s'attendait pas d'avoir aussi du côté de New Jersey. On a essayé d'étirer à sauce le plus longtemps pour avoir la valeur qu'on pensait avoir. Au final, est-ce qu'on aurait gagné quelques matchs? Oui, peut-être. Puis c'est hypothétique quand même là, des deux côtés de penser qu'on a eu des matchs plus significatifs. Je pense que le Canadien est exactement où il devait être en début de saison. Peu importe que ce soit Montembeau, Primo ou Allen qui était dans les filets pour certains matchs. Je pense que le Canadien se battrait encore une fois. On serait peut-être quoi, une position ou deux de plus. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a certains matchs où j'aurais aimé voir Samuel Montembeau être là à place de Jake Allen. Puis certains soirs, j'aurais aimé ça, voir Primo à place de Jake Allen 100%. Mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose sur des matchs significatifs ou qu'on serait une place vraiment plus haute là, dans le classement.
Faut pas oublier aussi, Jérémy, de mon côté, je comprends ton point. Là, pour le présent, c'est une chose, mais pour le futur, tu regardes, là, si t'es un des trois gardiens de but, tu tentes dans le vestiaire du Canadien de Montréal, la pression est là pour performer. Tu sais, Montembeau, là, lui, il avait pas le choix d'aller chercher son filet, puis d'être numéro un, puis de tout faire dans sa routine pour essayer de garder sa place. Primo, lui, c'était la même chose. Il voyait deux gardiens de but quand même vétérans derrière lui. Il est comme, OK, faut que je m'améliore, sinon moi, je vais aller dans la Ligue américaine, je peux me faire prendre au balotage. Il y a beaucoup de situations qui ont fait que ça a peut-être amené une petite pression supplémentaire qui a amené les performances à un autre niveau. En tout cas, moi, je crois à ça, là, parce que en tant que joueur de centre, si t'arrives au camp d'entraînement, alignement, puis il y en a deux, trois qui sont là pour prendre ta place, c'est sûr et certain que tu vas monter ton jeu d'un cran.
Okay.
Puis moi, je crois que c'est ce qui est arrivé avec les gardiens.
OK. Hey, Max, continue avec toi. Hier, après le match, il est en entrevue avec Marc Denis en plein centre de la patinoire. Marc Denis lui demande le fait d'avoir deux planchages de suite, le fait que les gens aient scandé ton nom, qu'est-ce que ça va t'apporter pour le reste de ta saison? Et sa réponse a été « It's just the beginning ». Comment t'aimais ça?
J'adore ça. Moi, j'aime ça, les jeunes.
T'es conquis.
J'aime les jeunes confiants. Ouais. C'est le fun de voir qu'on se laisse pas intimider parce que c'est la grosse machine de la Ligue nationale de hockey. Puis si, tu sais, moi, ça m'encourage. S'il croit à ça sincèrement, primo, ben tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'on connaît pas encore de lui. Puis lui, tu connais ton potentiel en tant que joueur de hockey. Hier, ce que j'ai vu, c'était très, très solide. Puis ça fait un bout, là, qu'il donne des bonnes performances. Ça arrive souvent qu'il arrive dans un match, fait des arrêts spectaculaires. Puis j'aime l'évolution, parce que tu sais, dans son cas, c'était vraiment, au début, tu te disais, il est pas capable d'être un gardien dans la Ligue nationale de hockey. Après ça, ça a été, il est capable, il y a eu une séquence où il y avait des premières périodes extraordinaires, puis il cassait en deuxième, troisième période. Là, il est rendu à l'autre niveau, il est capable de faire des matchs complets. J'ai hâte de voir la suite dans son cas.
Tu sais, pour qu'on ait choisi ce kid-là, puis qu'on n'ait pas voulu le perdre au ballottage, puis qu'on ait tiré à sauce comme ça à trois gardiens, malgré toutes les critiques, puis...
Pour un choix de septième ronde.
Le chiolage partout, c'est ça, pour un choix de sept pour Primo. Il y a quelque chose que Éric Raymond, que le staff, que Kent Hughes doivent aimer de ce kid-là, puis qu'on doit, nous autres de l'extérieur, pas voir. T'sais. Puis peut-être que, justement, hier, cette réponse-là, c'est un gars dans le filet là, qui est confiant, puis qui démontre qu'il est confiant, puis qui a l'air d'avoir aucun... Moi, je trouve que ce kid-là n'a jamais l'air stressé. Il donne un mauvais but, il est encore là, il a la même attitude, il a la même face. T'sais, je trouve vraiment que cette attitude-là qui te permet d'y croire. Fait, il y a quelque chose sûrement que nous, à l'intérieur du vestiaire, comme partisans ou journalistes, qu'on peut pas voir, qui fait en sorte... Il y a une raison pourquoi, comme on a dit, ce gars-là, on veut le garder, mais on veut pas le perdre parce qu'il va nous faire mal ailleurs, tu sais.
Moi, là, je regarde ça, puis le match d'hier nous en dit beaucoup. OK, Columbus a dominé une bonne portion du match, mais le Canadien a bloqué 32 lancers dans le match d'hier. Ça, ça veut dire que collectivement, tout le monde travaillait pour aider Caden Primo, Max.
100%, puis j'aime ce que je vois. T'sais, même Joel Armia qui bloque lancers. Tu vois la performance de Evans. T'sais, on est en train de l'acheter, le plan de Martin Saint-Louis. Puis pour l'instant, c'est plate, mais l'étape, c'est vraiment individuellement... La culture, c'est ça le focus de Martin Saint-Louis. Je pense qu'on va mettre les choses à la bonne place du côté structure dans le système défensif lorsque tout le monde va avoir atteint son potentiel individuellement. Après, c'est plus facile d'expliquer des jeux plus complexes défensivement ou d'avoir des jeux truqués sur les mises en jeu. Là, pour l'instant, c'est le développement. Je sais que certaines personnes croient que la Ligue nationale de hockey n'est pas une ligue de développement, mais la ligue a beaucoup changé lors des dernières années. C'est une ligue de jeunes. Il y a des bons jeunes joueurs, puis on peut prendre le temps, justement, dans une année de reconstruction, de leur monter des bonnes choses pour se développer. Puis l'exemple parfait pour moi, ben c'est Slavkovski. On l'a vu, on a été patient avec lui, on a accepté ses erreurs, puis regardez ce qu'on a aujourd'hui comme résultat.
Ah ben regarde, c'est le fun que tu parles de Slavkovski. Guillaume, écoute, t'as joué à 18, là. Le kid est 19, là. Il y en a 14 dedans. Il est gros, il trouve la confiance. Écoute, j'essaie de faire une projection, me dire qu'est-ce qu'il va avoir de l'air quand il va avoir 22, 23, 24 avec l'expérience. Je me dis, ça va être une machine pour le Canadien, ce gars-là.
Oh, il va être une vraie machine. Il va être dangereux. Il va être solide quand il protège le puck d'un fond de territoire. Puis, il y a aussi l'attitude, là. Tu sais, on parlait de Caden Primo tantôt. Slavkovski, c'en a un autre, là, qu'il n'y a pas trop de stress. Puis lui, ça ne dérange pas trop. Fait que, ça prend un mental pour jouer dans la Ligue nationale, puis ça prend un mental pour jouer à Montréal, puis être un premier choix. Puis je pense que lui, dans la décision qu'on a prise, on a fait nos recherches, puis on savait ce qu'on allait chercher. Moi, ce jeune-là, puis tu sais, il faut donner crédit aux Canadiens. Là, il y a plusieurs personnes qui l'envoyaient à Laval. Plusieurs dizaines, c'était un flop. On aurait dû prendre Coulet. On aurait, tu sais, puis là, on voit des facettes de son jeu par la confiance, par l'amour qu'on lui a donné aussi, puis qui est, puis quand on pense au futur, un gars qui est juste 3-4 ans plus vieux, tu sais, moi, c'est Quentin Byfield avec les Kings de Los Angeles qui était dans premier choix aussi, d'un premier choix, puis que quand on regarde sa saison, puis comment il est dominant, un gros bonhomme, que, moi, c'est exactement lui que je vois, tu sais, fait que si on réussit à avoir ça, on va être très satisfait, puis il va être dominant.
Là. Les boys, je sais pas si vous avez eu la conversation avec Mario, mais tu sais, au mois de juillet, on pourra prolonger le contrat de Juraj Slafkovski. On pourra peut-être y aller avec un contrat à la Nick Suzuki, un contrat à la Cole Caulfield. Est-ce que ça va jouer dans les mêmes eaux, Max, selon toi? Est-ce qu'on y va avec un 8 ans puis dans le 6-7 aussi? Est-ce qu'on fait déjà cette affaire-là ou on attend un peu?
Ben moi, je sais que c'est toujours un pari, là, un jeune âge, mais je pense qu'il va coûter moins cher si on le signe le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ma projection à moi. Je pense qu'il va devenir un joueur très, très dominant dans la Ligue nationale de hockey. Puis en ce moment, on peut encore utiliser le discours de on veut pas payer personne plus cher que notre capitaine, puis on veut payer dans les mêmes eaux que Caulfield, Suzuki. Je pense que ça va être un gars qui va... Tu sais, moi je le vois comme un Mariana, ça. Tu sais, je pense que c'est un gars qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est capable d'être solide. Ça sera peut-être pas le gars de 100 points, mais ça va être le gars qui va dynamiser ton premier trio, qui va amener exactement ce que tu as besoin pour que tes joueurs étoiles dominent dans la Ligue nationale de hockey.
Fait que ça, c'est un 7, là. Tu parles d'un 7 millions aux alentours pour 8 ans, là.
Ben moi, je me gênerais pas d'y offrir du 6-7. Là. J'ai pas peur de lui offrir ça. Là.
OK, Guillaume, toi?
Non, moi non plus, je suis à la même place. Tu sais, à quelque part, là, quand tu fais une reconstruction, c'est pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Tu veux être bon, tu veux avoir des jeunes qui vont performer. À quelque part, il faut que tu t'attaches avec certains. Il faut que tu dises, ça, c'est mon noyau. C'est autour de deux autres que je vais bâtir. Fait que là, ça va être Suzuki, Caulfield. Ça va être Slavkovski, puis ça va être Goulet que tu vas rajouter, qui va se retrouver avec une entente sûrement à long terme aussi. Fait là, tu vas avoir tes quatre joueurs, que c'est ton avenir, puis après ça, on vient mettre de la viande autour de l'os pour être capable de bâtir ce qu'on veut avoir comme organisation.
Mais je vais vous poser une question aux deux, par contre.
Si c'est Jérémy qui anime.
Non, mais c'est moi, je sais, mais c'est parce que ça va être que Jérémy, je veux savoir ton opinion, là, quand même, là. Tu sais, mettons, t'es l'agent de Slavkovski, t'acceptes-tu 6-7 par année, par contre?
Écoute, j'aurais tendance à dire on va attendre un peu. On va attendre la fin de la saison, on va voir peut-être une autre année. Peut-être que je prendrai un contre-pont, mais clairement, la stabilité des 7-8 ans, puis de s'associer avec Suzuki Caulfield, mais il faut que je sois dans les mêmes eaux. Tu comprends-tu? Il faut que je sois dans le 7. Là, je peux pas être dans le 5.5 ou dans le 6 parce que l'orgueil de Slavkovski, il faut pas trop la toucher non plus. Il faut que je sois comme le premier trio, là, selon moi.
Ouais, moi, tu me donnes. Tu sais, s'il finit la saison comme il fait en ce moment, avec ce qu'il démontre, tu sais, prendre des tirs sur réception comme il fait en avantage numérique, c'est les passes qu'il réussit à faire, ça protège. Tu sais, t'as pas de risque du côté du Canadien, là. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de blessures ou autre, mais je veux dire,
il travaille.
Dans toute la capacité mentale, l'attitude, il y a tout ce kid-là pour être un champion. Fait moi, j'ai aucune hésitation à donner ce qu'on a donné aux autres, à essayer de négocier pour s'entendre, pour avoir un premier trio qui a le même deal, que ça se ressemble, que tout le monde est heureux, puis que c'est ça ton noyau, puis on bâtit l'avenir. Puis si je suis l'agent de Slavkovski, moi, je l'ai pris le risque de dire je vais prendre 2 ans pour avoir plus après, puis gars, j'ai pogné des blessures, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que si t'as un offre sur la table de 6, 7, 8 ans, mets ton nom en bas de la feuille, mon petit coco, puis c'est tout.
Pince fort, 2-3 copies.
Pince fort, ouais, c'est ça. Exact.
Prends l'argent. Hey, les gars, t'as parlé tantôt, Max, t'as parlé de Joël Armia qui a bloqué un lancer. D'ailleurs, ça va de l'air faire mal pas mal. Il y a Martin Saint-Louis dans son point de presse qui a dit aujourd'hui, ça, là, c'est non négociable. Quand c'est le temps de bloquer des lancers, c'est non négociable. Je le sais pas, vous avez joué dans la Ligue nationale, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui bloque des lancers dans un club. T'sais, ton marqueur, tu veux-tu vraiment qu'il bloque des lancers? Comment vous voyez ça, Guillaume? Comment tu vois ça, toi?
Ben moi, j'étais malchanceux, Jérémy. Le gars, il lançait toujours à côté. T'sais, j'étais là, mais il me pognait jamais.
T'avais juste une patte d'un heure, c'est pour ça?
c'est ça. J'étais malchanceux, c'est ça, je pense. Mais je suis d'accord que faut que ça soit non négociable à quelque part.
Tu patinais bien pour un flamand rose.
Je tournais en rond.
C'est ça. Hey, c'est Joël Bouchard à un moment donné qui disait ça. Hey, no flamingo! No flamingo!
mais je pense que comme identité d'équipe, je suis d'accord. Je pense que je veux pas dire qu'il y a une ligne à tracer, mais t'as pas le choix quelque part que tout le monde le fasse parce que une rondelle pas bloquée d'un attaquant, c'est une rondelle qui se retrouve souvent dans ton filet. T'sais. C'est la première place où ce que t'as la chance de la bloquer avant une déviation, avant d'avoir un joueur qui prend un retour. Fait que pour moi, les attaquants, c'est vraiment important de la bloquer. Après ça, tu peux avoir une discussion sur les défenseurs. Est-ce que tu veux qu'ils bloquent? Est-ce que tu veux qu'ils tassent l'attaquant, qu'ils laissent la vue au gardien? Ça, pour moi, c'est une conversation que chaque entraîneur a une vision différente. Mais comme premier attaquant qui monte sur un défenseur, puis je m'en cache pas, là, j'ai jamais été le plus gros bloqueur de tir. Puis c'était pas c'est pas facile à faire, mais je pense qu'il y a tu peux pas passer à côté de le faire.
Okay, t'as pas le choix, Jérémy. Puis tu sais, on l'a vu là, quand Tampa Bay remportait des coupes Stanley, Stamkos a bloqué des lancers. Puis il faisait le travail pour son organisation. Puis c'est le message aussi. Tu sais, je me rappelle, je jouais dans une équipe où les joueurs sur une séquence bloquaient pas vraiment les lancers. Puis à un moment donné, on avait eu un petit meeting à l'interne pour laver le linge sale en famille, comme on dit. Puis notre défenseur étoile, il l'a dit. Il dit, tu sais, moi là, je joue 25 minutes par soir là. Toutes les lancers que vous bloquez pas, c'est moi qui les bloque devant le filet, là. Fait qu'à un moment donné, là, c'est un autre joueur étoile que tu blesses, c'est un gars qui est important. Les défenseurs, c'est important. C'est un travail d'équipe. Si tu bloques pas le lancer, il y a quelqu'un d'autre qui le fait puis qui va se blesser. Donc, c'est de faire les choses de la bonne façon. Ça fait partie de la game. Puis t'as tellement raison. Armia, il l'achète le système de Martin Saint-Louis. On peut voir un changement dans son attitude à Armia parce que son gros problème, ça n'a jamais été le talent, ça a été la constance. Puis là, c'est drôle, mais ça fait un mois et demi qu'il est constant, le gars. On dirait qu'il est content dans son rôle, puis il est content de l'entraîneur.
Ben Max, tu dis la constance. J'aurais pensé qu'on aurait pu dire aussi avec Armia la confiance. J'ai l'impression que quand il a confiance en ses moyens, quand il croit qu'il est capable de le faire, ce gars-là est un des bons joueurs, un bon joueur dans la Ligue nationale. Là.
Je pense que c'est la job de l'entraîneur que tout le monde se sente à sa place.
Ouais.
Puis tout le monde réalise que, OK, quand moi je fais Armia, OK, je me suis fait dépasser par Slavkovski, Caulfield, je me suis fait dépasser par correct, je l'accepte, mais là, l'entraîneur regarde ça puis il dit, OK, c'est quoi sa chaise à lui, la fameuse chaise? Mais Armia, ta chaise est rendue là. Puis si tu fais ça, tu peux aider l'équipe. Est-ce que je suis d'accord à 3,4 millions? C'est peut-être cher payé pour un gars qu'on s'attendait peut-être à une vingtaine de buts, qu'on n'est pas là. Mais je veux dire, à partir du moment que le gars a le contrat dans ses poches, puis il faut qu'il joue chez vous, ben trouvons une façon de maximiser tout ça, puis de faire en sorte que Joël Armia est heureux, qu'il est bon autour des jeunes, qu'il ait une attitude. Tu sais, hier, là, quand tu vois Armia faire ça, ben moi, j'étais un jeune, puis je me dis, OK, Martin Saint-Louis réussit à faire de quoi d'exceptionnel avec ce gars-là. Ben c'est le fun. Pis ça la met tout le monde dans le même moule, ça met tout le monde dans le même bateau, puis on n'a plus de passagers à la Mike Hoffman qu'on disait, pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Moi, j'étais un jeune, je regarde Mike Hoffman, je fais comme, pourquoi? Armia, quand il fait comme il fait là, d'accord, il mérite d'avoir son temps de glace, il mérite d'être là. Fait que pour le respect, la méritocratie là, qu'on appelle de tu fais un job, tu mérites d'être là. Armia, ce qu'il fait en ce moment, c'est bon.
Les gars, on va faire une courte pause, mais juste avant, je veux savoir, demain, le Canadien affronte les Bruins de Boston. Est-ce qu'ils se font traverser? Ben non, ils vont encore offrir une bonne performance. Max, je commence avec toi.
Bonne performance. Je pense que ces matchs-là contre Boston, il y a toujours de la passion. Donc oui, bonne performance.
OK, puis Guillaume?
Ouais, moi aussi, je pense. Puis avec la performance de Primo. Scander Primo dans les estrades, je pense que Montembeau il va endormir une grosse assoir pour être prêt demain.
OK, ben admettons il se fait traverser demain contre Boston, on recommence-tu un Price à l'ac? Ah non, mais j'aurais mis Primo en place de Boston! On va faire des bonnes heures de radio peut-être. Encore une fois. OK, on va s'arrêter là-dessus. Merci d'être là, les boys.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
On est de retour avec les gars de la poche bleue, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Les boys, ça va pas bien chez les Red Wings de Détroit. Ils se sont fait varloper hier 7-3 face aux Sabres de Buffalo. Je sais pas si vous avez vu les images aujourd'hui. Ben Sherratt et Lucas Raymond se sont bousculés un petit brin dans l'entraînement des Red Wings de Détroit qui sont dans une séquence. C'est quoi, 6 défaites de suite, quelque chose comme ça. Max, c'est-tu déjà arrivé que tu te crêpes le chignon d'un entraînement?
Ouais, c'est déjà arrivé. Puis pas nécessairement avec moi, mais dans les organisations dans lesquelles j'ai joué.
Okay.
Tu sais, je regarde la situation à Détroit, puis je peux exactement m'imaginer ce qui est arrivé à partir de l'arrivée des joueurs dans le vestiaire jusqu'à ce que la pratique soit terminée. L'entraîneur vient, on vient de perdre 6 matchs. Le problème, c'est l'effort. Faut travailler. Ça commence dans les pratiques. Fait qu'aujourd'hui, on va pratiquer comme si c'était un match. Le joueur va devant le filet, tu lui donnes un double échec, tu commences à travailler. Le vétéran, ça l'agace, puis là, ça part. T'sais, c'est tout aussi simple que ça, parce que là, tu lèves ton jeu d'un cran dans la petite pratique de 10 heures le matin, puis ça plaît pas toujours à tout le monde, puis on sait qu'il y a beaucoup de tension lorsque tu fais pas les séries éliminatoires, donc c'est une question de tension et de pratique un peu trop intense pour moi.
Ouais, exact. Puis tu sais, on a connu Ben Sherratt ici là. On s'entend que c'est un gars que les demi-mesures, il aime pas trop ça, puis il est intense. Peut-être qu'il est pas satisfait des performances des dernières semaines d'un jeune un jeune vétéran là, mais comme Raymond, puis il sait qu'il peut faire la différence, puis c'est une façon d'aller en chercher plus. Mais c'est sûr que l'ambiance est tendue dans tout le vestiaire, puis ça fait en sorte que ben ça arrive certains soirs, c'est sûr.
Ça m'a-tu de la pression de voir que les Islanders en arrière d'eux autres gagnent des matchs avec Roy qui est là? Là, ils en ont perdu un récemment, mais il était une séquence de 6 victoires. Quand tu sais que le club en arrière de toi gagne, que toi tu joues pas bien, en quelque part, ça devient difficile d'être focus, pis d'être dans le moment présent, pis d'offrir des bonnes performances, Max?
Ben, c'est sûr, certain. Puis en plus, je pense qu'ils ont passé en avant, les Islanders.
Ouais,
là.
Fait
que c'est là tu commences à penser que tu l'as échappé. Puis c'est sûr et certain, ça t'agace quand tu vois que les autres organisations ont réglé leurs petits problèmes, puis toi, t'es pas capable capable de le régler. Puis on a toute une équipe de hockey quand même. Là. Tu sais, c'est pas rien. Tu regardes l'arrivée de Kane, le talent qu'on a, la vitesse, les jeunes défenseurs. On n'est pas supposé d'être dans une situation de 6 défaites consécutives à ce temps-ci de la saison. Mais pour moi, si ça fonctionne pas cette année pour les Red Wings, on doit s'attendre à des changements parce que là, je pense qu'on a quand même utilisé plusieurs façons d'essayer d'accéder aux séries. Si on fait pas ça cette année, ça fonctionne plus là-bas.
On est à égalité à 72 points avec les Islanders. On a un match de plus de jouer. Fait que les Islanders est en ce moment quatrième as. Mais, tu sais, pour moi, là, on est à 4 points des Flyers dans la métropolitaine. On est à 2 points du Lightning comme quatrième as. Puis on est égal au niveau, tu sais. Fait qu'on a perdu 6. On a perdu l'avance qu'on avait. Mais si on est réaliste, on est capable quand même de virer les choses puis de faire séries éliminatoires. Là, t'sais. C'est pas 6 défaites qui t'excluent puis là t'es à 5 points, faut que tu te battes. Là,
je me rappelle d'une équipe qui avait eu un petit combat dans une pratique puis ils étaient derniers dans la ligue puis ils ont gagné la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, c'était Bertuzzo, je pense. Des fois, ça peut changer des choses.
Des fois, ça fait du bien.
Des fois, un peu de brosse camarade à l'occasion. Hey, on parlait des Flyers, les gars. J'ai pas entendu sur Torts qui s'est fait suspendre 2 matchs, 50 000 $ d'amende. Comment vous avez trouvé ça de le voir répliquer à Wes McCauley et dire non, moi je sors pas d'ici.
Moi, Jérémy, là, je suis pas capable d'arrêter de rire parce que la séquence de Torts qui veut pas partir, mais c'est parce que il crie après l'arbitre, mais il a le pouce dans le plâtre en donnant le fameux thumbs up. On dirait que je regarde la séquence, je suis pas capable de le prendre au sérieux, mais la réalité. C'est que cet entraîneur-là est critiqué souvent, mais il est là pour ses joueurs. Mm-hmm. Même s'il est dur là, avec ses joueurs, tu veux voir qu'il veut. Il construit quelque chose de solide à Philadelphie. Puis je pense que tout le monde est dans le même groupe là-dessus. Puis on veut jouer un pour l'autre. Puis avec le talent qu'on a, là, je m'excuse, mais on n'est pas supposé d'être en série. Donc ça veut dire qu'on a acheté le projet Tortorella. Mmh.
Tu sais, c'est une soirée émotive pour lui. Là. C'était les 20 ans ou 25 ans de la Coupe 2004.
Ouais.
Tous ses anciens joueurs sont là, à Tampa. Tu sais, ils ont fait quelque chose de gros autour de ça. Fait qu'il y avait de l'émotion. Lui, il se retrouve, son club se présente pas. Puis en partant, on se fait clencher, puis là, il se dit, comment je fais pour... Il a essayé de montrer à ses joueurs qui étaient là, il a pris le spotlight sur lui, il a laissé ses joueurs se concentrer sur ce qu'il avait à faire, il a pris la chaleur, il est ressorti, puis on se retrouve que, ben, sais-tu quoi, on a réussi à finir le match, faire les choses, puis ça lance un message à l'équipe, puis après ça, sais-tu quoi, la pyramide, elle part d'en haut, le propriétaire, il dit, ben, c'est ça la nouvelle, quand ils disent le New Orange, ben, c'est ça, on se tient tout à partir d'en haut, le propriétaire, il dit, parfait, 50 000, c'est moi qui le paye, puis je vais backer Tortorella, parce qu'il a backé ses joueurs, fait que la pyramide chez les Flyers, on a réussi à la placer, je pense que Tortorella a un grand rôle là-dedans.
Merci les boys.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Maintenant, la Ligue de hockey junior maritime du Québec a dévoilé ses nouveaux intronisés au Temple de la renommée. C'est une brochette d'athlètes qui ont vraiment marqué l'histoire de la Ligue. Patrice Bergeron, Alexandre Daigle, Maxime Talbot, Réginald Savage, à titre posthume évidemment, et Gilles Courteau, qui a été commissaire de cette Ligue pendant 37 ans. Il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Courteau.
Bonsoir.
Dans un premier temps, votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez pour être intronisé au Temple de la renommée, c'était quoi votre réaction?
Ben, ma première réaction, honnêtement, Jérémy, c'est que j'ai été surpris, honoré, mais surpris. Surpris parce que, avec toutes mes années passées à la Ligue, puis depuis la mise en place du Temple de la renommée, il y a beaucoup de bâtisseurs qui méritent de faire partie du Temple de la renommée de la LHGMQ. Puis j'ai été surpris que ça arrive aussi rapidement, mais en même temps très honoré.
Monsieur Courteau, est-ce que vous me permettez de vous appeler Gilles?
Sans aucun problème.
OK. Gilles, comment va la vie sans le hockey?
Je ne serais pas honnête si je disais que c'est le bonheur total. C'est pas vrai. Tu peux pas passer 47 ans dans la Ligue, dont 37 comme président, commissaire, puis du jour au lendemain, tout ça s'arrête. C'est certain que c'est un grand vide. Je suis des activités de la Ligue régulièrement. Je vais sur leur site web tous les jours. Je regarde des matchs sur le web. Je suis des activités de la Ligue canadienne. Je parle à l'occasion avec certains propriétaires qui m'appellent. Je suis en contact encore avec les commissaires de la Ligue de l'Ontario et de l'Ouest. C'est ça. C'est, à un moment donné, il va falloir qu'il se fasse une coupure, mais je pense que le fait d'être de répondre à certaines questions de propriétaires ou des membres du bureau du commissaire, ben pour moi, tu sais, c'est un peu plaisir. Puis on va maintenir ça encore tant ou si longtemps que les gens voudront bien avoir recours à un petit téléphone à l'occasion pour prendre des informations ou avoir une opinion quelconque.
Parce que, Gilles, quand on a su que vous étiez pour être intronisé au Temple de la Renommée, tu sais, on a parlé avec Stéphane Leroux qui est sur le comité de sélection. Puis Stéphane disait, pour nous, c'était un statement qu'on voulait faire en disant Gilles Courteau doit être au Temple de la Renommée. Fait que je comprenais leur portion, mais je me suis mis dans votre peau quelques instants. Je me suis dit, il me semble la cicatrice n'est pas fermée encore. Il me semble que ça va faire mal de revenir là. Je me trompe-tu quand je dis ça?
Non, pas nécessairement, parce que depuis que j'ai remis ma démission, puis que il y a eu plusieurs belles activités auxquelles j'ai participé. Exemple, à Sherbrooke, dans le cadre des assises, il y avait la cérémonie justement d'intronisation des nouveaux membres au Temple de la Renommée. Puis j'ai été honoré durant cette soirée-là. J'ai eu une soirée exclusive à Gilles Courteau avec ma famille, nos enfants et des amis, des gens de la Ligue et tout ça à Sherbrooke. Donc, j'ai eu beaucoup de reconnaissance, puis ça a aidé à faire une sortie plus en douceur par rapport à ça. Puis l'intronisation, bien comme j'ai dit, ça arrive rapidement, oui, c'est effectivement le cas, mais la façon dont le commissaire Cecchini me l'a annoncé, comment ça s'est fait, j'ai apprécié ça beaucoup.
Gilles, je veux savoir, je regarde ça de l'extérieur, de loin, parce que, tu sais, évidemment, ça fait tellement longtemps que vous êtes là, 37 ans comme commissaire. Est-ce qu'en quelque part, vous n'avez pas l'impression que vous avez payé le prix un peu pour les autres?
Ben, c'est-à-dire que dans le moment où le Québec a été la seule province à avoir une commission parlementaire, puis de faire le travail qu'ils ont fait en commission parlementaire au niveau de la Ligue de l'Ouest et de l'Ontario, aucune instance gouvernementale a voulu s'ingérer là-dedans, connaissant qu'il y avait des procédures qui étaient toujours devant les tribunaux, à cet effet-là, que c'était pas tout à fait réglé. Puis dans le moment, dans le contexte dans lequel c'est arrivé, l'ampleur a été au Québec au détriment des provinces de l'Ontario ou de l'Ouest. Puis comme ça c'est arrivé, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire contre ça, puis qu'on peut changer. C'est ça. C'est arrivé dans ce contexte-là, de cette façon-là. Puis, faut vivre avec ça. On n'avait pas le choix. Le gouvernement avait décidé d'aller de l'avant avec la commission parlementaire, puis avec différents autres comités qui étaient survenus, qui ont été mis en place. Alors, non, c'est ça qui est arrivé, puis c'est tout. Je peux pas répondre pourquoi que dans l'Ontario ou dans l'Ouest, c'est rien produit. Il faudrait lui reposer la question aux instances gouvernementales, puis aux médias, puis à ces gens-là. Ça n'a pas été le cas au Québec, ça n'a pas été pareil.
Si vous aviez l'opportunité de refaire la fin, là, comment ça s'est terminé avec la phrase « il n'y a rien de connotation sexuelle dans ce qui a été énoncé dans l'affidavit », tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait changé? Est-ce que vous auriez fait quelque chose de différent? Une approche différente peut-être? Un discours différent lorsque vous présentez devant les parlementaires?
Dans le moment, là, dans un contexte comme celui-là, la question de savoir si j'aurais fait quelque chose de différent, je vous dirais que la première chose, c'est que si on reconnaît ça, là, j'aurais été le Gilles Courteau que tout le monde a connu pendant mes années comme président, comme ça, ce qui n'a pas été le cas en commission parlementaire. Après ça, au niveau de la préparation avec les avocats d'Aller Canadienne et tout ça, le focus n'était pas sur ce que les joueurs avaient subi, mais davantage de qui était là au moment où ces initiations complètement déplacées seraient survenues. C'est là-dessus qu'avait été mis l'emphase. Mais tout ça, là, c'est pour moi, aujourd'hui, durant cette période-là, c'est j'ai pas été la personne que j'ai toujours été au niveau d'adresser des différentes situations, parce que des tempêtes, des événements, des incidents dans mes années à la Ligue junior majeure du Québec, j'en ai connu, j'en ai vu, on a passé au travers. Puis dans ce contexte-là, c'est je vais résumer ça en disant que j'ai pas été le vrai Gilles Courteau que les gens ont été habitués, que moi-même j'ai été habitué de voir.
C'est quoi la différence entre le Gilles Courteau d'avant et le Gilles Courteau en commission parlementaire? C'est à quoi cette différence-là? Qu'est-ce que les gens auraient vu de différent?
Dans le moment, dans le contexte, c'est les initiations, il y en avait. Ça faisait partie d'un rituel dans la LHJMQ. Les initiations telles qu'elles ont été rapportées au niveau des éléments de scandales sexuels ou des situations complètement inappropriées qui est arrivée, de mon côté, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mmh. Je ne l'ai jamais vu. Que ça ait été d'être plus incisif sur ce point-là, j'ai jamais eu connaissance de ça, ça n'a jamais été rapporté de quelque façon que ce soit. Jamais. Fait que c'était pas dans le but d'arriver de vouloir protéger ou de vouloir faire quelque chose, c'est d'arriver de dire hey, j'ai jamais été mis au courant de ça. J'ai jamais eu connaissance de situations comme celle-là. Alors à partir de là, c'est là qu'aurait fallu qu'il y ait probablement aurait fallu qu'il n'y ait pas de zone grise. Malheureusement, c'est que ça, peut-être que les réponses que j'ai données, peut-être que ça mettait des gens dans le doute de peut-être que, mais c'est d'être plus incisif puis de dire j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais eu connaissance de ça. Mmh. Alors à partir de là, c'est ça.
Gilles Courteau, je vous pose ces questions-là parce que j'ai un immense respect pour ce que vous avez fait. J'ai été repêché dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, puis vraiment, quand j'ai su que vous étiez intronisé, je me suis dit, je sais pas si ça, là, vous avez dit que non, mais je me questionnais si la cicatrice était complètement fermée. Juste savoir une chose. Maintenant, là, est-ce que vous avez de la rancune? Est-ce que vous avez pas des remords, mais de la rancune, de la frustration, parce qu'on vous a enlevé quelque chose qui était votre bébé, là?
Ouais, non, je pourrais pas dire ça parce que ce qui est arrivé en décembre dernier, en 2023, j'avais annoncé que je prenais ma retraite au mois de mai 2024, que je terminais mon mandat au 31 mai 2024, mm-hmm. Puis que le processus d'embauche du commissaire était commencé à ce moment-là, puis que là, on avait déjà établi le plan de comment se ferait la transition et tout ça. Ça, c'était déjà tout fait. J'étais conditionné à ça, c'était réglé. À partir du moment où le nouveau commissaire a été nommé, ces choses-là, ben là, il y aurait eu la transition, puis tu sais, tout le plan était réglé, puis je serais demeuré là pour lui être en support jusqu'au 31 mai 2024. Alors ça, je vous dirais que l'annonce de ma retraite en décembre 2023, ça c'était plus difficile. Tu sais, c'était un deuil là, de dire ok, là ça se termine puis ça finit. Quand on est arrivé avec la commission parlementaire puis tout ce qui a découlé de ça, c'est là que je disais que j'avais dit à un moment donné dans une entrevue que si J'étais 40-45 ans dans ma deuxième année d'un contrat de 5 ans. J'aurais jamais démissionné. Mm-hmm. Le cas était complètement différent dans ce contexte-là, sachant que je prenais la retraite, c'était annoncé pour le mois de mai 2024, puis qu'il y avait une transition qui était en préparation. Le nouveau commissaire était sur le point d'être embauché. Alors, à partir de là, c'était arrivé dans ma tête à quel moment je partirais, mais quand ça s'est arrivé, là, j'ai fait OK. Comme je l'ai écrit dans la lettre de ma démission, je n'ai pas à faire subir tout ce qui a découlé de ça à ma famille, aux enfants, aux petits-enfants qui sont plus âgés aujourd'hui puis qui avaient à vivre ça. Fait que j'ai dit, OK, c'est assez. On met un terme à ça. Et c'est comme ça que ça s'est terminé.
Gilles, vous êtes présentement à l'extérieur du pays. 37 ans comme commissaire, j'imagine que vous avez besoin de jaser d'hockey une fois de temps en temps. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui vous endure jaser d'hockey un peu ou ben non, vous faites ça seul?
Non, mais c'est j'en parle avec mon garçon, Louis-Jacques, quand on a l'occasion de parler. Notre fille, Jessie, également suivre l'activité de la Ligue. On a l'opportunité. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je suis en contact avec les gens du bureau du commissaire qui m'appellent à l'occasion. Je suis en contact avec les propriétaires d'équipe, certains directeurs gérants ou entraîneurs-chefs. Alors, OK, c'est pas quotidien, c'est pas fréquent, mais quand ça arrive, je suis content de répondre au téléphone puis de répondre à leurs interrogations ou de leur donner conseil comme ils demandent conseil pour l'appel qu'ils me font. Fait que ça, c'est correct. Puis tu sais, on a l'opportunité. Puis je lis tout sur la Ligue. Je suis la Ligue beaucoup. Je suis la Ligue canadienne. Je suis les activités qui passent au niveau du hockey amateur canadien. Puis on suit ça. Et comme j'ai dit en début d'entrevue, tu coupes pas 47 ans de ta vie du jour au lendemain. Là, fait que ça se fait comme ça. Puis je pense que c'est une belle sortie que j'ai. Puis je suis content de pouvoir être en contact encore à l'occasion. C'est pas fréquent. Mais quand ça se produit, je suis bien heureux.
On est en conversation avec Gilles Courteau, qui sera intronisé au temps de la renommée de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. Gilles, après 37 ans comme commissaire, c'est quoi votre plus grande fierté? Tu sais, quelque chose que vous dites, ça, j'ai fait ça, et j'en suis tellement fier, c'est la chose que je veux que tout le monde se rappelle.
Ouais. Le développement du volet scolaire pendant que les joueurs jouent dans la LFGMQ et le programme de bourses d'études qu'on a mis en place. Ça, c'est un élément pour lequel je suis très fier qu'aujourd'hui, ça serve aux joueurs. Puis je suis content de voir des joueurs que je rencontre à l'occasion là, sur un terrain de golf ou ailleurs, puis qui me disent qu'ils viennent de terminer leur 4 ans à l'université, puis que le programme de bourses d'études qui leur a donné 24 000 $ pour étudier à l'université, puis qui leur a permis de pouvoir se concentrer sur leurs études, puis de continuer à jouer au hockey avec l'université plutôt que d'avoir à travailler pour être capable de payer leurs études. Ça, c'est un élément que je suis très fier. L'autre point, et il y en a probablement trois. Là, j'ai parlé du volet scolaire. Le deuxième, c'est tout le programme qu'on a mis en place pour les joueurs avec un encadrement sur et hors glace. Puis on était la première ligue à mettre en place le programme d'aide aux joueurs quand on a procédé à l'embauche de Natasha Lorenz. C'était fait là de donner des services aux joueurs, puis d'avoir de respecter le volet de la confidentialité, puis tout le travail qui a été fait de ce côté-là, ça c'était un élément très important pour moi, dont je suis particulièrement fier. Puis le troisième, c'est certain que c'est la décentralisation de la Ligue qui était beaucoup métropolitaine à l'époque et qu'on est allé en région où est-ce qu'on voulait que ce soit l'événement majeur de la place, élargir la couverture médiatique, ouvrir les opportunités pour des nouveaux commanditaires. Puis, bien entendu, après ça, s'en est suivi de l'expansion dans les maritimes. Puis ça, c'est un autre facteur qui me rend très fier. Puis la façon dont les propriétaires ont embarqué dans ces différentes initiatives-là, projets et tout ça qu'on a mis en place. Ça, c'est un élément. Tu peux arriver avec plein d'idées puis plein de nouvelles choses que tu veux mettre en place, mais si tu n'obtiens pas du support de propriétaire, tu n'avanceras pas. Et ça là-dessus, mais c'est quelque chose que je suis très fier que j'ai été en mesure de pouvoir être capable de convaincre les propriétaires qu'on allait dans cette direction-là. Puis ils ont embarqué, puis ça a donné le résultat de ce qu'on a aujourd'hui, ce que la Ligue a aujourd'hui, puis les gens du bureau du commissaire, que Mario en tête, continue à faire le bon travail, puis c'est toujours ouvert avec des nouvelles idées. Mais c'est les trois éléments là, pour lesquels je suis personnellement très fier de ce qui a été accompli. Puis ça a amené aussi la qualité des propriétaires, ça a amené une grande qualité au niveau des entraîneurs, des directeurs gérants, personnel de soutien, tout ça, qui peuvent répondre à ce qu'on demande comme encadrement pour les joueurs. Puis on a vu l'évolution que ça a donné au niveau de la Ligue dans les dernières années sur l'aspect de la discipline sur glace et tout ça, puis comment on a travaillé. Alors, ces éléments-là, là, il y a trois points principaux, comme j'ai mentionné, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui découlent de tout ça.
Mais Gilles Courteau, félicitations pour cette nomination au Temple de la renommée de la Ligue. Et si jamais vous êtes en manque de jaser de hockey, mon téléphone et nos émissions sont ouvertes. On aimerait bien avoir vos commentaires. Ça va toujours nous faire plaisir, Monsieur Courteau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.
Merci. Au revoir, Gilles Courteau, qui a été commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant 37 ans.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Antoine Roussel qui est là. Salut Antoine.
Salut, comment vas-tu?
Ça va bien toi Antoine?
Ça va super bien.
Antoine, on va se parler du Canadien, c'est sûr, mais pour débuter, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Matt Rempe qui a été suspendu 4 matchs. Évidemment, hier, on n'a pas pu commenter parce que c'était le match entre le Canadien et les Blue Jackets, mais je veux voir comment toi tu vois la suspension qu'on lui a donnée de 4 matchs. Est-ce que tu sens que la Ligue nationale lui a envoyé un message en disant « calme-toi le pompon, mon ami »
C'est clair que quand tu commences ta carrière, puis tu annonces la couleur de cette manière-là, c'est sûr que la Ligue nationale te regarde et attend que tu sortes vraiment de la ligne, puis n'hésite pas à appuyer sur le clou, surtout que tu es une jeune recrue, puis tu viens d'arriver dans la Ligue. Et on se rappelle, avant cette suspension de 4 matchs, il avait eu déjà un match contre les Devils où il avait frappé un autre joueur à la tête. Et c'était très limite aussi. Et donc, ça s'accumule tout ça pour lui. Je pense pas que le fait que les bagarres rentrent en ligne de compte, mais c'est sûr qu'il fait beaucoup de bruit et on s'y attarde beaucoup parce que, justement, quand il fait des coups comme ça, c'est le genre de geste qu'on ne veut plus voir dans la Ligue nationale. Les coups à la tête, c'est vraiment proscrit. C'est ça qu'on veut pas voir. Puis la Ligue nationale fait bien de le suspendre. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de changer les manières de faire que d'y aller de suspension de la sorte. Donc oui, j'approuve totalement. Maintenant, pour son implication physique dans des combats et tout ça, je trouve que ça a encore sa place. Et il est en train de se faire tout carrément pour lui-même.
Penses-tu qu'il va changer? Penses-tu qu'il va ralentir?
Ben, il est mieux de changer parce que ça des suspensions, ça commence par 4. Après ça, ça tombe dans les 2 décimales. Puis comme je te le dis, il n'y a pas de meilleur moyen de faire changer des comportements que des longues suspensions. Puis on l'a déjà vu, Rafi Torres, il voulait pas s'adapter. La Ligue l'a tout simplement sorti de la Ligue avec des suspensions qui avaient tout simplement pas d'allure. Mais en même temps, si un joueur veut pas apprendre, ben t'as pas d'affaire là. T'sais, si t'es pas capable de comprendre que ce que tu fais, c'est pas bien, ce joueur-là ne doit pas faire partie de la Ligue. Je comprends qu'on joue dans un sport qui est physique, il y a le temps de réaction est vite des fois, mais tout le monde fonctionne sur le même temps de réaction et ne prend pas des punitions de la sorte. Tu vas me dire, tout le monde fait pas 6 et 6 non plus, mais ça fait pas depuis hier qu'il fait 6 et 6 et ça fait depuis pas hier qu'il joue au hockey également. Donc, cette adaptation-là, c'est à lui de la faire.
Je comprends pour les coups à la tête. Je comprends aussi qu'on veut essayer d'encadrer un peu le jeune, mais tu sais, tu dis, c'est un message clair lancé par la Ligue. Pendant ce temps-là, hier, il y a un match entre les Ducks d'Anaheim puis les Blackhawks de Chicago où la foire pogne, où Gibson, gardien de but des Ducks, rentre dans le tas. Écoute, j'ai pas vu grand monde sur les réseaux sociaux dire « Hey, ça a pas d'allure, c'est scandaleux. » Écoute, ça a pogné
en
encore.
En fait, moi, ce qui est, par rapport au coup à la tête et tout ça, en fait, ce qui me dérange quand tu fais un coup à la tête, c'est que dans le genre de Matt Rampe, c'est que tu prends quelqu'un qui est dans une position vulnérable. Quand tu quand il est échauffouré, là tu le sais que s'il y a un combat, tout le monde est en mesure de se défendre et de choisir son implication. En fait, pour moi, elle est là la ligne. Si t'es capable de choisir ton implication puis d'être dans les feux de la rampe ou dans pleine action dans une échauffourée, ben là c'est différent que tu transportes la rondelle puis quelqu'un arrive dans ton angle mort et te frappe à la tête. Pour moi, c'est frapper quelqu'un de vulnérable, ça c'est dangereux. Puis crois-moi, j'en ai reçu des coups à la tête, des coups de poing, c'est pas la même affaire que recevoir une mise en échec que tu vois jamais arriver. Ce qui est 10 fois plus dangereux et ce qui est le plus dommageable, c'est la mise en échec que tu vois pas arriver. Puis tu vas me dire, tout est dommageable, oui, mais pour l'avoir vécu, ce qui fait le plus mal, c'est la mise en échec que tu vois pas arriver.
C'est drôle parce que il y avait une image, on voyait Pavel Bourré donner un coup de coude. Je pense que c'est Shane Sherla à l'époque avec les Stars de Dallas. Écoute, il l'a assommé avec un coup de coude, 500$ d'amende. C'est ça que la Ligue avait donné, 500$. Ça a changé un petit brin, là.
Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Les choses évoluent, ça s'en va dans la bonne direction.
Antoine, demain, le Canadien affronte les Blues de Boston. Là, on sort d'un match blanc, victoire de 3-0 face aux Blue Jackets de Columbus. Si le Canadien joue comme ça demain, comme on a joué contre les Blue Jackets, contre les Blues de Boston, quel genre de match ça va donner selon toi?
J'adore ta question où tu connais déjà la réponse.
Exact.
Ben, c'est clair que tu es un fin renard.
Ben oui.
Effectivement, que si le Canadien joue de la même manière, je ne donne pas cher de leur peau. Hier, le match, en fait, si on prend ça dépend de quel segment du match qu'on prend. Si on prend les 5 premières minutes du match, ben, c'est sûr que le Canadien, s'il joue de cette manière-là, va probablement gagner contre les Bruins de Boston. Mais si on met les choses en perspective et qu'on l'étend sur 60 minutes, ben, je pense que le discours devient tout autre. Donc, évidemment, si le Canadien ne dicte pas, ne respecte pas des concepts, les lignes bleues, par exemple, le placement de rondelles, ce genre de choses-là, quand tu joues contre une équipe organisée, une équipe qui se bat pour la Coupe Stanley cette année, encore une fois, ben c'est sûr qu'ils te font mal paraître. C'est officiel. Puis, la différence, c'est que probablement que les Bruins, c'est une équipe qui est beaucoup plus patiente. Le Canadien se frustre souvent, puis lève le pied, puis a des hauts et des bas dans son match. Puis, c'est ça qu'on a vu hier. Puis, ça a été, il y a eu quand même des bonnes présences, mais sur la régularité, ça a été quand même compliqué.
Non, c'est ça. C'est quoi? On parle de quoi? C'est 5 minutes. Attends, j'ai la note. 5 minutes 48, 3 buts du Canadien. Après ça, ça a été le festival des Blue Jackets de Columbus. Question qui peut sembler bête, mais j'ai hâte d'entendre ta réponse. La dernière fois que Samuel Montembeau a affronté les Bruins de Boston, il s'est fait traverser. Si demain, il s'en va devant le filet du Canadien puis il se fait traverser encore, est-ce que là, on recommence à Primo, on va mettre Primo un petit peu plus ou non? La confiance est là envers Montembeau?
Ben, je pense que la confiance est là. Il l'a prouvé à maintes reprises. Dans le cas de Primo, il a joué un très bon match hier. Il a fait des arrêts époustouflants à plusieurs reprises. Donc, évidemment que c'est une saine compétition. Je pense que c'est le genre de questionnement que tu vas avoir quand tu as une compétition avec ton deuxième gardien de but. Maintenant, je pense que c'est pas nécessairement l'attitude qu'on va avoir du côté du Canadien d'ici la fin de saison, mais bien évidemment que c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir probablement l'année prochaine, cette compétition-là. Je pense que le gardien numéro un est à perdre en ce moment du côté de Samuel. Donc, lui, il faut qu'il continue les bonnes performances comme il l'a fait durant la saison, puis qu'il continue d'aider son équipe. Bien entendu, le Canadien joue contre des adversaires tornitruants, des bonnes équipes d'ici à la fin de la saison. Pour la majorité, hier, c'était une anomalie dans leur fin de saison, mais ils jouent quasiment contre juste des équipes qui sont en position de séries éliminatoires. Donc, ça va être compliqué la fin de saison pour le Canadien. Ce sera pas évident. Pour les gardiens, ce sera pas évident non plus. Donc, tant mieux si, quand tu joues une équipe un petit peu plus faible, tu es capable de remporter le match. Mais je pense que le Canadien va bien se battre. mais il va devoir avoir besoin de ses gardiens qui soient très, très, très bons pour mériter une victoire.
OK, avant qu'on se laisse, Antoine, j'ai deux questions de la Ligue nationale de hockey, puis après, je te laisse aller en cette très belle soirée du mercredi 13 mars. La première, Détroit en perd 6 de suite, OK? Détroit...
Ça se bat dans la pratique.
Ouais, je veux savoir qu'est-ce que t'en penses.
Ben, se bat dans la pratique, j'ai déjà vu ça un petit peu. Je trouve que c'est jamais bon signe.
Antoine, j'aime ça, parce que j'ai l'impression que tout le temps tout seul, tout le monde dit, ben non, c'est normal. C'est pas normal.
Non,
c'est pas bon signe, ça?
Moi, je trouve que c'est pas bon. Non, je pense que c'est pas un bon signe. Je pense que écoute, je dis ça, puis j'ai poussé un de mes coéquipiers à un moment donné, puis par frustration, puis j'avais aucune malice vraiment, j'étais juste frustré d'une situation particulière, mais généralement, c'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la frustration qui gravite autour de l'équipe, puis tu viens de le mentionner, ils ont perdu 6 matchs de suite. Ça vient de tout ça. Il n'y a jamais de problème quand les équipes gagnent, tu remarqueras, mais c'est la meilleure façon d'évaluer ton équipe, c'est quand ça va pas bien, puis comment tu réagis, qui et quoi, comment le monde font en sorte de rebondir. Pour moi, c'est ça qui est important. Souvent, j'ai déjà vu des joueurs connaître des saisons de rêve, puis c'était la première année que j'étais avec eux, puis je me posais la question, j'aimerais ça les voir quand ça va pas bien, voir comment ils vont réagir, et il y en a qui vont réagir super bien, puis il y en a que c'est tout le contraire. Donc, tu es quand même capable d'évaluer ton personnel d'une bonne manière, mais j'aime moins ça quand ça arrive dans une pratique. Moi, je pense que tu peux être intense, c'est correct, mais du chamaillage, des fois, ça s'annonce pas bien.
Moi, là, je connais pas l'histoire de ce qui s'est passé sur la glace. Il y a Ben Chiarot et Lucas Raymond. D'après moi, Ben Chiarot, on est allé chercher pour justement ce genre de situation-là, peut-être pour brasser un peu les jeunes, pour dire, garde, mets tes yeux devant les trous puis commence à travailler parce qu'on a besoin de travailler. Je me trompe pas quand je dis ça, là. Un vétéran, Chiarot, c'est pas lui qui part le trouble, j'imagine, là.
Je pense pas non plus. Je pense que justement, comme tu le dis, avec il passe son message, puis tout le monde ne prend pas des messages non plus. Les messages que quand Ben Chiarot a commencé dans la Ligue nationale ont changé un petit peu. Donc tout le monde ne se prend pas nécessairement de la bonne manière. Des fois, tu pourras avoir une manière un petit peu plus politique, mais si la manière politique ne fonctionne pas, ben des fois tu vas avec la manière forte un petit peu. Puis c'est ce qui arrive. Donc, moi non plus, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation-là, mais pour l'avoir déjà vu, c'est le genre de situation qui arrive comme ça, là, t'sais, où tes premiers messages ne fonctionnent pas, puis finalement, il faut que tu brasses la cage un petit peu pour faire passer tes messages.
OK, hey, on termine avec ton ancien club, les Canucks de Vancouver, le gardien Thatcher Demko, blessé plusieurs semaines. Comment tu vois la situation des Canucks? Est-ce qu'ils vont être capables de s'en sortir?
Ben, je pense que oui. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher un deuxième gardien l'été dernier, pour avoir cette profondeur-là. Maintenant, ils vont avoir besoin d'aide quand même. Je pense que quand ton gardien numéro un qui se blesse de la sorte, ben, ça fait en sorte que t'es obligé de te resserrer. T'es obligé, en tant qu'équipe, de te resserrer autour de Smith, puis de lui donner davantage d'espace pour travailler, puis de faire en sorte que sa confiance augmente, parce que c'est tellement facile de reprendre les choses telles quelles, mais quand t'as ton deuxième gardien qui n'a pas des fois la meilleure saison escomptée, il n'a pas une mauvaise saison en soi, il goal pour 900, mais c'est pas la même qualité de gardien de but, t'as pas le choix d'essayer de le protéger davantage.
Antoine, je te remercie, je te souhaite une excellente soirée, et ne me brasse pas dans le prochain balado sortie de zone, parce que ça va pas bien pareil, on n'a pas le droit de se brasser entre nous autres, c'est parfait ça?
Non, c'est parfait, et j'ai déjà très hâte à vendredi. Et si vous écoutez pas le balado, je vous encourage vraiment à l'écouter, parce que c'est du bonbon.
Merci beaucoup Antoine, bonne soirée.
Salut, bye bye.
Merci, au revoir Antoine Roussel qui nous parlait entre autres de ce qui s'est passé chez les Canadiens de Montréal, mais surtout cette suspension à Matt Rempe. 4 matchs de suspension, coup de coude, le jeune, on lui a lancé un message, ça suffit mon ami, calme-toi le pompon. Bon, on s'arrête et au retour, Stéphane White va être avec nous. Hier, après la performance, quand tout le monde scandait le nom de Caden Primo, Primo, pendant le match, Primo, Primo, entrevue après match, Primo, Primo, Marc Denis lui demande qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur tes performances d'ici la fin de la saison, et il répond, it's just the beginning. Qu'est-ce que Stéphane White en pense? Il sera avec nous au retour, restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Stéphane White est avec nous. Salut Stéphane.
Salut Jérémy.
Stéphane. Ton gardien de but, mettons que t'es coach là, des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, OK? Ton gars n'a pas trop eu sa chance. Il s'en va devant le filet. Il sort un match pas possible. Le monde cante son nom. On lui demande qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence sur la suite de ta saison. Il répond en plein micro, en plein milieu du Centre Bell. It's just the beginning. Tu dis quoi comme coach?
Je dis que j'aime ça.
Ah oui?
Je dis que j'aime ça. Et puis, mais pour connaître le kid, puis je connais assez bien Kaden Primo pour savoir que c'est il y a pas d'arrogance là-dedans. Pas venant de lui. Et puis et j'aime ça. Ça veut dire que enfin j'ai ma vraie chance. C'est ça que ça veut dire. Puis moi honnêtement, là, quand je l'ai entendu dire ça, j'ai eu un petit sourire en disant « Ah la boy, Kaden! »
Est-ce que les bottines vont suivre les babines? Est-ce qu'il a ce que ça prend pour... Je dis pas qu'il va faire des blanchissages à chaque match, mais penses-tu qu'il est rendu à être stable maintenant avec le Canadien quand le ménage à trois est terminé? Est-ce qu'il est capable de faire la job selon toi?
Ben moi, écoute, ça fait 3 ans là, que je travaille au niveau des médias, puis ça fait 3 ans, je suis peut-être un des seuls au Québec à dire que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Et puis je sais qu'on m'a dit souvent, je connais rien là-dedans. Peut-être que c'est vrai, mais...
Ouais, je voulais t'en parler. Tu connais rien là-dedans, là. Arrête-toi.
Ouais. Donc, peut-être que c'est vrai, mais je persiste à croire. Et ça fait 3 ans, puis c'est drôle, là, depuis quelques temps, surtout depuis 24 heures, là, c'est tout le monde qui dit « Ah, je savais qu'il était bon, ben oui. Je savais qu'il était assis. » Ah oui, mais moi, ça fait 3 ans, je le dis, puis la plupart de ces personnes-là, ça fait 3 jours qu'ils le disent. Et puis, moi, personnellement, là, j'ai tout le temps cru à son talent. J'ai tout le temps cru à son caractère, à la façon qu'il a de jamais être trop high, jamais être trop low. C'est un gars, puis je l'ai tout le temps dit, je fais à peu près 50 fois, je le dis, en 3 ans, qu'il me fait tellement penser à Corey Crawford. La façon de son caractère et de son physique, et de la façon de son style de gardien de but. Moi, je pense qu'il peut être très bon, mais la grosse différence pour lui depuis 3 jours, la plus grosse différence dans la tête de Kaden Primo, c'est que pour la première fois, il n'a pas la pression de devoir être très bon s'il veut. Sinon, il va jouer dans 15 jours. Sinon, il peut retourner dans la Ligue américaine. Ça, c'est la première fois de sa carrière qu'il n'y a pas cette pression-là de dire, écoute, maintenant, c'est à moi, c'est dans mes mains, je peux contrôler ce que je peux, et puis je sais que je vais avoir ma chance. Maintenant, je suis officiellement, jusqu'à preuve du contraire, officiellement, le deuxième gardien de but du Canadien, et j'ai pu me casser la tête de dire, bon, encore une fois, je me répète, mais je ne jouerai pas dans 15 jours si je ne joue pas bien, ou je risque pas de retourner dans l'Américaine si j'ai un ou deux mauvais départs. Enfin, je vais avoir une vraie chance.
Stéphane, il a dit avoir embauché un préparateur mental dans une période qui était un peu plus difficile. À un moment donné, il devait avoir du découragement. Moi, je voulais savoir, quand tu es coach de gardien de but, elle est où la limite entre la relation que tu as avec ton gardien et le gardien qui a besoin d'aller plus loin, d'avoir un préparateur mental? Elle est où, cette limite-là?
C'est une bonne question parce que je ne l'ai jamais vécu. Mes gardiens de but n'ont jamais eu besoin de préparateur mental. Jamais. Que ce soit à Chicago ou à Montréal, je me souviens de 2 gardiens de but que j'ai eu en particulier. Un, Nikolaj Abibulin, qui avait été voir le gérant général en voulant dire, donc, écoute, dis à ton préparateur mental qui me fiche la paix. Moi, je fais affaire avec une personne, puis il s'appelle Stephen White.
Oh.
Et puis, ça avait été assez clair. Et puis, Carey n'a jamais eu la
nécessité.
La nécessité, exactement, de vouloir faire appel à un préparateur mental. Et la raison est simple. C'est qu'un préparateur mental n'a jamais été gardien de but. Il ne sait pas c'est quoi. En tout cas, moi, comme coach de gardien de but, avec l'expérience que j'avais, j'ai eu près de 40 ans d'expérience en travaillant avec des gardiens de but, puis exactement lui dire comment il se sentait. Et avant, il n'y avait même pas moyen de me le dire. Je savais comment il se sentait autant que ça allait mal ou que ça allait bien, ou qu'il y avait des hésitations ou des points d'interrogation, ou des zones grises ou des zones d'incertitude, je pouvais le détecter. Mais ça, c'est une question d'expérience. Mais si Caden a senti le besoin de faire ça, puis ça a marché, mais tant mieux pour lui. Puis il y a rien de mal à consulter quelqu'un si t'en sens le besoin. Mais moi, mes gardiens de but ont jamais senti le besoin de consulter.
Stéphane, tu sais, c'est le fun, l'histoire de Caden Primo. On a aimé ça. Tout le monde a scandé son nom. Ça fait un bon show. Mais quand même, le Canadien a accordé 22 lancers dans la première période. Je pense que c'est un sommet cette saison. Il avait 21 tirs bloqués après deux périodes. Il a bloqué 32. Primo fait face à 41 lancers. Je veux dire, ça pourra pas être de même tout le temps, là. Il va falloir que ça soit plus serré défensivement. Ça fait juste pas de bon sens, là.
Ben moi, mais écoute, j'écoute le point de presse de Martin Saint-Louis après le match. Ouais. Et puis, j'étais un petit peu comme, oh my God, Martin, tu peux pas dire n'importe quoi. Le monde au Québec, c'est pas tout des valises, là. Dans le sens que tu viens de donner 41 lancers. Là-dedans, là, il y a eu 21 chances, des chances dangereuses de marquer 21 contre 12. Donc, 21 pour Columbus. C'est des chances, ça, là, pas à peu près 21 chances dangereuses. C'est incroyablement des grosses chances. Et Martin lui ose dire, on a bien géré ça. Fait que je m'excuse. 92, 18 lancers dirigés vers le filet. Beaucoup de lancers boilés, bloqués. Beaucoup de lancers ratés. 41 au but. 21 chances de marquer dangereuses. Des chances qu'on appelle des chances de catégorie A.
Ouais.
Et Martin dit, on a bien géré ça.
Ouais, mais Stéphane, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il est là, il dit, je vais regarder ça. D'après moi, les chances A, c'est pas toutes des chances A. Il y avait de la chance B puis de la chance C là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? On s'est fait dominer pendant, on a dominé pendant 5-48 puis le reste du match appartient au Blue Jacket. Il peut pas dire ça.
Ben, il peut pas dire ça, mais il peut pas dire, hein, on a bien géré ça. Il y a une marge en dire, on n'a pas bien joué ou on a dominé 5 minutes. Puis il y a une marge à dire on a bien géré ça. Come on! Cette équipe-là s'est fait dominer 55 minutes de temps. Donc, pour faire attention, quand on dit on a une bonne couverture défensive dans le haut de la zone, d'accord. Mais le problème, c'est dans le bas de la zone. C'est désastreux.
Oui, d'accord. Donc, des coins de patinoire par devant du filet, oh, c'est une aventure, là.
Ben moi, parce que je suis pas capable de voir des défenseurs couvrir des gars à ligne bleue. Des défenseurs, c'est supposé défendre devant le filet. Et je suis incapable de voir des avants qui se retrouvent devant le filet à essayer de défendre le gardien de but. Parce qu'ils ont jamais fait ça de lui. C'est pas dans le ADN, comme dirait Martin, de défendre devant un filet. J'aime bien mieux voir un David Savard, un Jack Eye, un Madison devant le filet que voir n'importe quel avant du Canadien devant le filet. Donc, moi, je veux dire, on essaye de nous convaincre que c'est bon. On essaye, ça fait 3 ans qu'on essaye de nous convaincre que le système défensif est bon.
Mais.
Ben, moi, écoute, je suis loin d'être convaincu.
Stéphane, je retiens, on n'est pas des valises. Merci beaucoup, Stéphane White. Je te souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée,
JR. Merci, salut, à la prochaine. Voilà, c'était Stéphane White qui nous parlait de Caden Primo et ce blanchissage de 3-0.
Les amateurs de sport.
C'est 23.